Thomas Junot, bonjour.
Bonjour.
Avec le Yémen en guerre, vous nous offrez l'occasion de replacer ce conflit dans sa dimension nationale et internationale. Vous insistez notamment sur le fait que cette guerre s'est certes internationalisée en 2015, mais que la dynamique nationale ne peut être occultée. Alors, si on trace à grandes lignes le cadre historique essentiel pour la compréhension du conflit actuel, on va dire qu'on remonte dans les années 60. 1962, une république émerge dans le nord du pays avec Sanaa comme capitale. Et puis en 67, c'est un régime marxiste qui s'installe dans le sud du pays, autour d'Aden, à l'issue du départ des Britanniques. On peut dire, Thomas Junot, qu'on a là le cadre qui va en quelque sorte déterminer le destin de ce pays?
Oui, je pense que c'est une très bonne façon de cadrer les origines de ce conflit-là. Ce qu'on a souvent appelé le Nord Yémen, qui a dirigé le côté plutôt nord-ouest à partir de 1967, est demeuré pendant toutes ces années-là un pays fragile. L'autorité centrale était contestée. Le gouvernement n'a jamais réussi à vraiment imposer son autorité. Pendant ce temps-là, dans le sud, ce qu'on appelait le Sud Yémen, qui était le seul pays formellement marxiste dans le monde arabe, est aussi resté un pays très fragile, avec des tensions internes très, très sévères, une petite guerre civile en 1986. Et tout ça, ça nous amène à la réunification en 1990, qui semblait aller de soi, surtout dans le contexte de la fin de la guerre froide. Mais très rapidement, on s'est rendu compte dans les années 90 que ce n'était pas vraiment une union, mais plutôt un mariage forcé et une prise de contrôle du Sud par le Nord. La prise de contrôle du Sud a été très rapidement brutale, très corrompue aussi. On a vu, par exemple, des officiers loyaux au président Salé saisir des terres qui appartenaient à des dirigeants du Sud. Et ça, ça a créé un ressentiment qui a bouillonné là, tout au long des années 90, tout au long des années 2000, et qui aujourd'hui est en pleine effervescence. Alors, une des nombreuses questions qui se posent là, quant à l'avenir du Yémen, c'est que même si aujourd'hui, en théorie, il y a un Yémen, pour la majorité des experts, dont moi, on a beaucoup de misère à voir comment, à l'avenir, même dans un scénario de fin de la guerre, comment est-ce que ce pays-là peut être réunifié de façon fonctionnelle. C'est pas évident du tout.
De cette histoire émerge aussi un acteur du conflit actuel, ce sont les Houthis.
Alors, les Houthis, à certains égards, sont les descendants des dirigeants du Yémen avant la guerre civile de 1962, à laquelle vous avez fait référence au début. Après la guerre civile, après la naissance du Yémen Nord et la réunification, ces populations-là dans le Nord-Ouest, qui appartiennent à la minorité chiite des Zaïdis, est marginalisée et frustrée. Il y a beaucoup de ressentiment, un peu comme dans le Sud à certains égards, même si les détails sont différents. Et cette frustration-là se canalise dans les années 90, dans les années 2000, autour du leadership charismatique de la famille Houthi. Et cette frustration-là se transforme en insurrection armée à partir de 2004. Et tout au long des années 2000, des années 2010, on voit ce groupe-là, qu'on commence à appeler les Houthis, développer une force militaire, une force politique de plus en plus importante. Et ça débouche, un peu à la surprise générale, parce que ça arrive vite, en 2014, de la prise de contrôle de la capitale du pays, Sanaa, par les Houthis. Et la phase de la guerre dans laquelle on est aujourd'hui, on peut dire, a vraiment commencé à ce moment-là, en 2014.
Oui, puisque face à cette victoire des Houthis, entre en scène une coalition internationale menée par l'Arabie Saoudite. Et l'objectif pour l'Arabie Saoudite, c'est de contenir l'influence de l'Iran qui soutient justement les Houthis.
Exactement. Alors, les Houthis, dans les années 2000, début des années 2010, quand leur puissance se consolidait progressivement dans le coin nord-ouest du pays, en même temps, leur lien avec l'Iran se développait. Ces liens-là étaient très limités au début. On parlait de contacts culturels. Progressivement, il y a eu un peu de soutien militaire, un peu de soutien financier. Mais pour l'Arabie Saoudite, c'est une grande source d'inquiétude parce que l'Iran et l'Arabie Saoudite sont les deux grands rivaux de chaque côté du Golfe Persique. Alors, quand en 2014, les Houthis prennent contrôle de la capitale, sont de plus en plus agressifs, de plus en plus ambitieux, pour l'Arabie Saoudite, c'est une grande source d'anxiété. Alors, début 2015, l'Arabie Saoudite met sur pied une coalition de 10 États, presque tous arabes, presque tous sunnites. En pratique, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui sont les seuls membres importants de cette coalition-là, qui s'engagent donc dans une intervention militaire dans le but de refouler les Houthis, de refouler l'influence iranienne et de rétablir le gouvernement que les Houthis venaient de renverser.
Et alors, des bilans pour les acteurs internationaux, l'équation semble très disparate. On a donc une Arabie Saoudite qui à l'heure actuelle, semble perdre sur de nombreux terrains. Et un Iran qui, lui, vous le dites dans votre livre, bénéficie finalement d'un extraordinaire retour sur investissement.
Oui, alors l'Arabie saoudite, quand on essaie de faire un bilan 6 ans et demi après le début de son intervention, c'est un désastre sur tous les fronts parce qu'elle est embourbée dans une guerre qu'elle ne peut pas gagner, qui est extrêmement coûteuse au niveau économique, au niveau militaire, elle subit des pertes, très coûteuse au niveau diplomatique. L'Arabie saoudite, vraiment, se fait critiquer de toutes parts par la communauté internationale, en Europe, en Amérique du Nord, et aussi au niveau sécuritaire. Les Houthis, contrairement à ce que l'Arabie saoudite souhaitait avec cette intervention-là, sont aujourd'hui beaucoup plus puissants qu'ils ne l'étaient il y a 6 ans. Et ça, c'est en grande partie, justement, parce que l'Iran a saisi l'occasion qui lui était offerte sur un plateau d'argent d'augmenter son soutien pour les Houthis. Alors aujourd'hui, l'Iran envoie des armes légères, des fusils, des munitions, mais aussi des parties pour des missiles, pour des drones, des armes que les Houthis n'avaient pas il y a quelques années. Alors, pour l'Iran, c'est un retour sur un petit investissement qui est massif. Combien d'argent est-ce que l'Iran dépense au Yémen annuellement? On ne le sait pas, mais c'est peut-être de l'ordre d'environ 100 millions de dollars. En échange de ça, l'Iran aujourd'hui a établi des bases, a construit une influence très solide sur la péninsule arabique. Et ça, pour l'Iran, c'est un gain énorme.
Et avant de revenir aux acteurs locaux, j'aimerais qu'on s'attarde rapidement sur les Émirats arabes unis. Donc, c'est un acteur important aux côtés de l'Arabie saoudite lors du déclenchement de la coalition internationale. Mais on va voir qu'au fil des années, finalement, cet acteur joue désormais clairement sa propre carte.
Alors, le rôle des Émirats arabes unis en tant que membre important de la coalition est fascinant et très complexe. Pour eux, la priorité au Yémen est d'abord et avant tout d'établir son influence dans le sud du pays. Lutter contre les Houthis et contre l'influence iranienne, c'est important, mais c'est secondaire. Aujourd'hui, on voit, et ça encore, c'est assez surprenant parce que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années, les Émirats ont émergé comme l'acteur externe le plus influent dans le sud du pays. Ils ont mobilisé différents mouvements séparatistes ou autonomistes du sud. Alors, les séparatistes du sud du pays, grâce en partie à ce soutien émirati-là, sont beaucoup plus influents, beaucoup plus organisés qu'ils ne l'étaient par le passé.
Et dans le cadre de cette internationalisation, vous pointez un fait à plusieurs reprises, c'est qu'il ne faudrait pas dire que les acteurs locaux sont passifs. Ils jouent eux aussi leur propre carte dans ce conflit.
Ça, c'est un élément très important de l'équation. Au Yémen, les séparatistes du Sud qui reçoivent du soutien des Émirats, les Houthis qui reçoivent du soutien de l'Iran, ce ne sont pas des marionnettes, ce sont des acteurs qui ont leurs propres intérêts, qui vont aller chercher ce soutien extérieur-là, qui jusqu'à un certain point vont manipuler ce soutien extérieur-là pour pouvoir poursuivre leurs propres intérêts locaux, qui des fois sont en lignée avec les intérêts de leur soutien extérieur, Émirats ou Iran dans ce cas-ci, mais des fois ne le sont pas.
Il y a une autre erreur que vous pointez, que l'on a parfois dans la perception de ce conflit, n'y voir qu'une dimension religieuse sunnite-chiite, d'autant que les parrains des différents camps sont effectivement l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais pour vous, cela aussi, c'est un prisme réducteur pour décrire ce conflit?
Absolument. Je ne nie absolument pas que la dimension sectaire ou religieuse a une certaine importance dans ce conflit-là. Oui. Mais est-ce que c'est le facteur principal qui détermine les choix des acteurs en présence? Non. L'Iran et les Houthis sont effectivement chiites tous les deux, mais tant qu'à ça, ils n'appartiennent même pas à la même branche du chiisme. Les Iraniens sont duodécimains, la branche principale du chiisme. Les Houthis sont zaïdis, qui est une petite minorité. Mais de toute façon, ce qui les a attirés ensemble à l'origine, c'est un intérêt commun pour s'opposer à l'Arabie saoudite. De la même façon que les Émirats soutiennent les séparatistes du Sud Yémen, pas du tout parce que tous les deux sont sunnites, parce qu'ils ont un intérêt commun.
Alors, aujourd'hui, les Houthis contrôlent, on va dire, à peu près un tiers de la superficie du Yémen, les deux tiers de la population du pays. La question qu'on se pose, quelles sont les perspectives?
Les perspectives sont mauvaises, et c'est sûr que c'est tragique de dire ça, mais je ne vois tout simplement pas de perspective de paix à court ou moyen terme au Yémen. La dynamique militaire sur le terrain en ce moment est telle que les Houthis sont dominants. Ils ne sont pas tout à fait encore assez puissants pour prendre le contrôle du pays en entier, mais personne ne peut les vaincre. Le problème, c'est que le gouvernement internationalement reconnu, soutenu par l'Arabie saoudite, elle-même soutenue par les États-Unis, est profondément corrompu, il est très fragmenté, il est divisé et il est, pour être cru, incompétent. Et tant que ce gouvernement internationalement reconnu, qui est en partie en exil à Riyad ailleurs, est incapable de devenir efficace et fonctionnel, il ne sera pas capable de vaincre les Houthis. Et le problème avec ça, c'est que les Houthis, en plus d'être alliés avec l'Iran, c'est un groupe dont la gouvernance au cours des dernières années a émergé comme étant brutal, corrompu, obscurantiste. Donc, la perspective de la stabilisation du pays par les Houthis n'est pas une bonne perspective en termes de pacification, de stabilisation, de développement dans le pays. Alors, tant qu'on a cette dynamique-là des deux côtés, les perspectives de paix et de stabilisation seront malheureusement extrêmement mauvaises.
Merci, Thomas Junot.
C'est moi qui vous remercie.